Bonjour à tous et merci d'être présents en nombre, je crois qu'on peut le dire, ce matin aux Journées économiques de Lyon, qui connaissent bien sûr un succès croissant au fur et à mesure des éditions. Nous en sommes à la troisième, un succès qui tient bien sûr à votre participation, vous, mais également vous interviendrez à la qualité des intervenants. Et je voudrais saluer ce matin les personnalités qui nous font l'amitié d'être avec nous. Pour traiter de cette question de la gouvernance internationale, le plan d'actualité. On va commencer bien sûr par Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. C'est le type de loi, c'est le président de la Commission, la direction de la création et de l'économie économique. C'est lui qui a commencé, c'est la gauche, bien sûr, directeur général du Fonds de l'État international, qui occupe depuis plusieurs fonctions depuis, donc c'est le gouvernement de la Banque de France. C'est François Dominion, qui a été de longues années comme défenseur des premiers vice-présidents de la Banque européenne. Qui dirige actuellement le Palais économique de Paris, qui est au point de vue de la science économique, et M. Maurice Gagnon, qui est un collectif de l'éducation, puisqu'il est de Paris en France, notamment en représentant l'économie pour le plus important sur ce qui est de la vie aujourd'hui, la situation du Conseil d'analyse économique. Nous sommes des travailleurs qui ont été en plus de l'ouverture du sommet des États à Séoul, et nous espérons qu'on va se faire la garde et le titre à plusieurs enceintes pour mettre un manque de temps. La particularité de ces crises qui se sont succédées depuis une bonne quinzaine de années, c'est que le rapport entre chaque crise devient de plus en plus court et que leur coût, le coût de chacune de ces crises, augmente aussi chaque année. Si vous permettez de donner la parole à notre premier intervenant, qui est de l'avantage, juste deux dates et deux chiffres, c'est pour justifier la date de ce qu'on va faire, avec un petit retour en arrière. Nous sommes en décembre 1994, je crois, sur le plateau de l'information, et c'est là que date la crise mexicaine à l'époque. Le premier gouvernement électronique, une première cette parole sur ce propos de M. Gonzalo Pérez qui dit si nous sommes confrontés à la première grande crise financière du XXIe siècle. C'était en 1900. Raoul, par la suite, les crises ont commencé, la crise des chambres asiatiques de 1997, la crise de 1998, etc. Mais je retiendrai quand même ces chiffres. À l'époque, la crise mexicaine, on a quelques jubilés, on a un temps assez court, on a quand même 3-4 mois. Je parle aussi sur un contrôle, si vous voulez, parce que vous étiez un Mexicain concerné. Grâce à la fonds énergie, il faut bien reconnaître le PSMI, du Mexique, et l'Union des États-Unis, qui était bien sûr un premier moment, c'était un peu à l'époque, l'équivalent de 70 milliards de dollars, quelque chose comme ça. La crise asiatique, deux ans plus tard, 4 plus, et nous en sommes actuellement, d'après les chiffres, les études, autour de 1 800 000 milliards de dollars, qui est quand même 1 600 milliards de dollars. Gouvernance et importance. Vous savez que c'est une question cruciale. Et pour moi, c'est international, c'est la tête de la République française, c'est trop de la méthode.
Merci beaucoup, bonjour à tous et félicitations aux organisateurs du Journée de l'économie, puisque pour la troisième édition, elle rassemble de nombreux acteurs et de nombreux professionnels aussi de tous les points, nationaux, tous les jeunes, en tout cas, de ceux qui s'intéressent à l'économie. Je crois que c'est une bonne nouvelle, parce que notre pays a besoin de mieux comprendre le mécanisme de voir sur l'économie de la manière la plus simple, la plus accessible possible, parce que l'économie, c'est simplement la vie de tous les jours, c'est notre vie. Et je vous écoute à mon sujet, c'est petit, et je me remémorais, mais évidemment, puisque moi j'ai travaillé dans une grande entreprise internationale, qui est un cabinet de international, et au moment de la crise mexicaine, on s'est interrogé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on paye des loyers d'avance, comment est-ce qu'on se débarrasse de nos devises au Mexique. Quelques années plus tard, j'étais toujours dans mes fonctions et on a essayé d'apporter le maximum d'aide possible au gouvernement thaïlandais pour réformer sa loi sur la faillite. Donc, les grandes crises monétaires, les grands désordres qui semblent apparemment extérieurs, lointains, nous affectent tous dans notre vie quotidienne. Ils affectent la vie des entreprises, en premier chef, la façon dont ils gèrent leur liste de change, dont ils conservent ou non des devises en monnaie locale, dont ils empruntent ou non dans des pays étrangers, dont ils considèrent qu'elles sont plus ou moins solides, partent de la vie du quotidien, c'est la vie de tous les jours, c'est l'emploi dans les territoires, ce sont les petites, moyennes, grandes entreprises qui fonctionnent au sein d'univers qui sont des univers économiques, financiers, monétaires. Alors, je ne peux pas parler de France, à mon avis, qui est devant vous, et qui sont partis. Vous allez aborder sans étonner les questions de l'ordre de l'État de France. Vous allez aborder comme des erreurs dans le plan de ou du nouveau système de l'État de France qui s'appelle aujourd'hui, avec des systèmes d'échange qui sont un peu ou moyennement faibles. En tout cas, pas pour l'essentiel. Je ne vais pas parler de ce sujet-là. Je ne vais pas l'aborder parce que, mon point de vue, cela constituera les grands travaux pratiques de la présidence française, Bigérien, à compter du 12 novembre au soir. Le président de la République, avec une vision qui le caractérise, a il y a à peu près un an, identifié trois sujets. Trois sujets comme étant des pistes de réflexion, de travaux, et peut-être de propositions indispensables pour une meilleure stabilité internationale, pour une meilleure équilibre internationale. Ces trois sujets sont les suivants. Premièrement, le système monétaire international, comment l'améliorons-nous, comment le réformons-nous, comment en permettons-nous un meilleur équilibre, quels en seront les acteurs principaux, comment doivent évoluer les modèles les unes à l'égard des autres, qui doit participer au débat sur les questions de change, donc aujourd'hui, au sein du G7, qui est normalement la France appropriée pour discuter des questions de change, la Chine n'est pas dans le cadre de la concertation. Premier sujet. Deuxième sujet, tout aussi important de mon point de vue, c'est celui de matières premières, du prix des matières premières, de l'amplification des prix, de l'organisation du marché des matières premières. Et par matières premières, j'entends non seulement le pétrole et le gaz, comment on peut organiser, même si on a besoin de beaucoup plus d'informations et de beaucoup plus de pertes sur ce marché-là, mais je pense bien sûr à tous les produits agricoles, la perte de l'inversion du prix du pétrole public, sur les six derniers mois. Je pense à des matières premières telles que, par exemple, l'acier. Je pense à des produits encore pas suffisamment explorés, pas suffisamment répertoriés comme les terres rares, dont on a absolument besoin dans un certain nombre de secteurs de haute technologie. Et je pense aussi à de nouveaux marchés, qui seront par exemple les côtés d'émissions de CO2. Toutes ces problématiques-là ont en commun une certaine capacité, des mécanismes de formation des prix qui sont peu explicites, et une propension à fabriquer des dérivés financiers des marchés physiques, dont certains considèrent que c'est un mécanisme de stabilisation, et dont d'autres pensent au contraire, que ça pourrait faire d'alimenter une spéculation désormais assise sur des produits différents de ceux dont nous avons l'habitude, et avec lesquels on a déjà mis en place un certain nombre de spéculations. Et puis, troisième grand objectif, là aussi identifié par le président de la République, celui de la gouvernance mondiale. Là, je voudrais vous en dire un mot tout simplement parce que on peut s'interroger sur la légitimité, la crédibilité et la pérennité d'une institution telle que le G20. Ceux qui ont participé à la gestion et à la résolution de certains nombres de grandes crises le savent très bien, le G20, c'était la suite de la crise asiatique en 1997, la réunion de l'ensemble des victimes de la crise et de l'ensemble des grands créanciers. C'est ainsi que c'est formé le G20. G20, réunion du ministre des Finances et du gouvernement de l'Union centrale dans ces 20 pays. Et en temps de crise majeure comme celle que nous avons rencontrée, qui a explosé en septembre 2008, même si elle pouvait se ressembler depuis au moins 2007, sur la région de Canada, la gouvernance du G20 était considérée comme le moins approprié, le plus paisif, le plus susceptible de permettre de couvrir un nombre important de pays, mais surtout 85% du produit intérieur net mondial, 85% de richesse, c'est moins de 4 populations. Durant cinq ans, sur la continence et la polémique du capitalisme, qui a eu l'immense mérite pendant la période de crise, produire trois résultats. Premier résultat, il a permis de débloquer un système financier qui pourrait être fermé. Souvenez-vous, l'époque où les financements étaient désirés, les entreprises ne pouvaient pas créer, et les acteurs financiers eux-mêmes étaient au bord de l'eau. Débloquer ce système, tout simplement par la mise en avant de la garantie des États et le rôle de l'imaginaire qui est défendu en avant pour pouvoir renforcer leur véritable contrôle économique. Deuxième réalisation de ces gérants en période de crise, le réamorçage de la croissance, dans les parents stimulés, sous les incitations collectives et sous la longueur du fonds d'État international, qui a permis aussi de passer d'une période de croissance négative en certain nombre d'économies, de chiffre de croissance de l'État pour un certain nombre de pays émergents, à une propice activité, qui est en place en France, qui n'est pas suffisamment durable, puisque nous n'avons pas équilibré comme c'est le même que le fait, mais une propice activité de moins. Et puis, troisième objectif réalisé de l'école moyenne, il a permis de revenir à ce chiffre en tout cas, de se priver du protectionnisme et de toujours aller plus loin dans les économies à une situation étonnante qui est produite uniquement par la suite de la crise des années 30. Est-ce que ces gérants qui ont été suspects en période de crise, est-ce qu'ils ont réalisé au bout ces trois objectifs? Mais est-ce qu'ils ont raison de produire? Est-ce qu'ils vont servir la cause commune? Est-ce qu'ils vont permettre de défendre un tel talent de la monnaie? Est-ce qu'ils vont permettre de se pencher plus efficacement sur le sort des pays en développement, en particulier sur le sort des pays en développement? Est-ce qu'ils vont permettre, par exemple, de gérer les propositions et les énergies organismes tels que l'Organisation mondiale du commerce? Le Conseil de stabilité financière, quelques petits compétences avec des agents dans le domaine de l'environnement, qui soutiennent de leur manière le plan de mode de fonctionnement de la loi officielle ont appelé les collaborations de protéger des biens publics. Il y a trois ajouts que l'on peut faire en matière de gouvernance mondiale. Vous imaginez que ces gérants qui ont été pertinents et utiles en période de crise, même s'il n'est pas totalement légitime, même s'ils ne représentent pas à ce jour la totalité de la population du monde, sont dans les deux tiers, même s'ils ne représentent que 85% des produits intérieurs bruts, est-ce qu'on ne veut pas justement, à l'occasion de cette présidence française, rêver, organiser, instituer un mécanisme qui permettrait une meilleure représentation de tous, qui permettrait la légitimité et l'efficacité, peut-être pour la proposition de certains pays, avec une courroie de transmission à inventer des points de rapprochement entre les organisations de la communauté qui sont soit aussi gérées comme l'Organisation mondiale du commerce, soit dans des mécanismes organisés, dans d'autres pays de pensée, soit constitués et on va dans la série des institutions de la commerce comme le Fonds monétaire international de l'Europe mondiale. Voilà ce troisième chantier sur lequel je voulais passer quelques instants de plus, si vous m'interrompez, sachant que la question du système monétaire international, la question du meilleur équilibre, la question de l'implication des États dans les financements seront traitées avec beaucoup plus de temps par ces participants qui nous suivront. Et je crois que j'ai pratiquement tenu mon temps de parole. Je voulais vous indiquer en tout cas que la présidence française sera une présidence de test. Le test de notre capacité à tenir la distance. C'est la première fois qu'un pays, qui s'est tenu, pendant 12 mois, la présidence du G20 et du G8. C'est une conjonction extrêmement rapide, bien que collectivement, nous ayons la volonté de le faire. Donc, test de notre résistance à l'épreuve, test de la légitimité et de la représentativité de l'institution. Et je sais que nous pourrons tous collectivement compter sur l'enthousiasme et l'énergie de toutes les équipes mobilisées au service de cette organisation par la France du G20, sous l'autorité du président de la République, qui, pendant la période de crise, a été de la vie de tous. Déterminant pour à la fois engager les États-Unis dans ce processus du G20 et ensuite pousser des causes qui n'étaient pas de l'évidence. La cause de la rémunération des acteurs du système financier, la cause d'une vraie régulation, mieux coordonnée par la commande, et la cause de l'éradication difficile. Déjà, nous sommes un peu actifs. Donc, c'est bien que la vidéo, ou c'est vrai, vous avez été vous aussi un peu à l'intérieur. Nous sommes au rendez-vous. J'espère que vous aussi poursuivrez toutes les familles françaises du président Sigel. Merci. Merci. Merci à vous, ministre. Merci de m'avoir été avec nous. Nous avons une question beaucoup de questions à vous poser, notamment sur le fait de savoir si le gouvernement, si elle peut réellement mieux à avoir un caïque, et si possible d'éviter de faire le bandit dans les quartiers qui veulent aussi s'en occuper de nous comme ça. Nous allons poursuivre sur le volet culturel. La partie de l'État, comme c'est vrai, j'en ai évité de suivre le rôle des élus locaux dans la gouvernance locale, et bien évidemment, celui de substitution à l'État électoral. Et je voudrais commencer par donner la parole à M. Arnaud, au nom de l'Organisation de coopération de l'Ouest de l'Ouest. Vous êtes aussi un acteur parmi les électricités à des participants de l'UGU, vous avez partagé le rôle de l'Ouest. Comment voyez-vous plutôt ce secours repensé d'une organisation de coopération par rapport à ce gouvernement de l'Ouest de l'Ouest?
Merci, Seth. Merci à toutes et tous qui nous accompagnent aujourd'hui. Ce collègue, ce professeur, étudiant, journaliste, vous tous qui vous intéressez à l'économie et son rôle dans la société, c'est la crise mystérieuse de notre vie, au moins, parce qu'en comparaison avec les années 30, je trouve que ce n'est pas très intéressant, parce qu'on n'était pas là. Et aussi parce que les conditions étaient différentes. On a une crise, ou même, je dirais que la crise, vous savez, c'est beaucoup de choses mauvaises, une croissance médiocre, pas pour cette année et les prochaines, mais aussi pour les moyens d'hommes, une chômage de 10% ou plus, et ça, c'est seulement le chômage qu'on mesure de manière officielle. Même les États-Unis acceptent que leur chômage soit environ 17%, au lieu de 10%, c'est-à-dire presque un de chaque 5% ne travaille pas, qui pourrait travailler. Et une des déficits budgétaires historiques de chiffres de 10, 11, 12%, et aussi une accumulation de dettes à une énorme vitesse. Dans le domaine aussi de l'OCDE, dans les pays qui sont plus développés du monde, 34 pays et qui représentent 60% du PIB du monde, le ratio dette et PIB, c'est-à-dire la proportion de la dette dans l'économie ensemble, moyenne, c'est en hauteur de 100% dans la France économique. Ça veut dire que normalement, pour accepter à Maastricht les règles européennes, dirait que 60% était le maximum et beaucoup de pays étaient déjà au-dessous, mais avec la crise, ça a augmenté avec une vitesse énorme. Ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Le chômage de 10%. Mais aussi, je dirais, qu'il est particulièrement dans les jeunes. La crise financière a devenu une paralysie économique. La paralysie économique a devenu une tragédie de chômage. Et la tragédie de dans la tragédie, c'est le chômage des jeunes. Et la moyenne du chômage des jeunes, c'est le double de le chômage normal. 10% du chômage normal, le pays OCDE, 20% chômage des jeunes, il y a des pays 25, 30, 33, 40, même 50% chômage des jeunes. Dans les pays OCDE, c'est le pays le plus développé du monde. Hein? Alors, ça, c'est ça le défi qu'on a aujourd'hui après la crise. Alors, il faut naturellement renouveler, il faut féliciter notre modèle économique. Le monde tel que nous le connaissions n'existe plus et ce n'est pas nécessairement qu'il faut tout réinventer, mais il faut nécessairement le réviser, le revoir, le réanalyser. Alors, Mais c'est pas évident de nécessaire quand il y a une tolérance des politiques économiques et au niveau international. Cette coordination est plus indispensable ces années, précisément pour les raisons que Christine Lagarde vient de mentionner. Et ça va au-delà de la stabilité financière, c'est l'accès de la croissance, du développement, la soutenabilité écologique, etc. Mais aussi, on a passé 18 mois en nous préoccupant que de la reprise, comment sortir de la recession. Bon, ça c'était très bien, c'était légitime, parce qu'on était avec une croissance négative, une contraction de l'économie, etc. et partout, presque. Mais aujourd'hui, on a découvert qu'on a sorti de la récession et on est dans la reprise, après avoir dépensé de 10, 20, 30% du budget national de chacun de nos pays comme déficit public. Alors, il faut trouver un nouvel équilibre. Si avant, on s'est préoccupé que de la crise, on ne peut pas s'en préoccuper seulement de la consolidation budgétaire quand il faut le faire. Surtout parce que les marchés bancaires sont énormément sévères, sont brutales. Et les marchés cherchent sur les faiblesses, cherchent les vulnérabilités et les attaquent. On a vu déjà le problème de la Grèce, on a vu le problème de l'Espagne, de l'Irlande, du Portugal, qui ne sont pas tous dans le même sac, qui ne sont pas tous dans la même situation. Naturellement, que l'Espagne et le Portugal sont dans une situation plus confortable que celle de la Grèce, par exemple, mais en même temps, les marchés réagissent avec une énorme force contre ceux qui considèrent les faiblesses, les vulnérabilités. Alors, il faut faire attention. Bon, les Français sont bien passés hein, pour jouer un rôle important dans cet effort. Vous avez déjà de quelques Français illustres à la tête de communautés, par exemple, après M. Cantier, M. Larosière, après M. Cantier, il y a une petite corruption allemande, mais il y en a encore une normalité, c'est-à-dire qu'il y a un Français à la tête de communautés. Mais vous avez aussi l'OMC, Pascal Mignard, vous avez la Banque Centrale Européenne, il y a le Trichet, et aussi l'OCDE et à Paris. Hein? Alors, vous allez comprendre le coup. Hein? Alors, vous êtes bien placé pour jouer un rôle important dans cette relance de l'économie mondiale. L'OCDE, on veut vous aider à la question de cet basculement de la richesse, basculement du pouvoir économique mondial. On est dans un contexte dans lequel, si on veut faire face à n'importe quel sujet global, soit la pauvreté, soit le changement climatique, soit la question de la crise elle-même, etc., il faut absolument avoir dans la table la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, etc. Et il faut seulement suivre les voyages de monsieur Obama hein, pour savoir pourquoi il faut se préoccuper de nos enfants dans notre arbre. Aujourd'hui, notamment, l'OCDE, 60% du PIB mondial, mais en 2030, ça ne fait rien, ce sera le temps. Non, je parle de basculement de la Russie du pouvoir économique mondial. Ce n'est pas pour vous montrer ce que c'est l'OCDE. C'est un peu intéressant l'OCDE, mais seulement pour dire aujourd'hui, les émergents des développés en développement sont 40%, ils vont devenir 60%, 24% seulement. Hein? On va le voir, ça se fait tous. On va le voir, on va être là. Donc, il devient la majorité de l'économie du aujourd'hui. Alors, on parle à tous les gérants pour faire quoi? Je crois que cette question de la guerre de l'église, la guerre monétaire, a quitté un peu l'agenda des gérants, au moins, du point de vue de l'église. Hein? Ça veut dire que ça ne veut pas dire que les leaders n'ont parlé que de ça, mais si on lit les journaux aujourd'hui et on voit les télé, etc., on parle que de ça. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a la question de, comme tu dis, trouver ce nouvel équilibre entre la reprise et la consolidation budgétaire. C'est-à-dire comment réduire, comment acquérir doucement la question des déficits budgétaires, qui sont transitionnels aujourd'hui. Et puis il y a la question du développement, comment aider de manière plus avancée les pauvres. Et il y a la question de la réduction de la consommation des carburants à base de fossiles fuels. Oui, parce que la protection écologique, mais aussi en réduction plus cher. Parce que les pays les pauvres du monde font des bénéfices de subsides, des exceptions, des exemptions, etc. À la consommation d'essence, à la consommation d'électricité. Et il y avait des pays en développement, des pays très pauvres dans le monde, qui, quand l'essence, le pétrole était à 150 dollars par baril, et le subside, la subvention des prix de l'essence, de l'électricité et de l'essence était plus que le budget pour l'éducation. Ça vous donne une idée, évidemment. Parce que, naturellement, autant du point de vue politique, du point de vue aussi social, il est total, mais c'est pas l'état. On travaille sur des choses comme ça dans le jeu. On travaille dans le cadre de l'anti-corruption, pour lutter contre la corruption dans tous les pays du monde. Parce que la corruption nous frappe à tous, mais surtout les pays dits pauvres. On a aussi dans le G20 un grand succès. Le G20 a cassé le secteur bancaire. Dans les dernières 2 ans, on a avancé plus que dans les dernières 12, dans les 12 ans avant, pour casser le secteur bancaire et pour faire que tous les pays, si en autre pays, lui demandent l'information, les personnes qui devraient peut-être payer des impôts au CFE et qui donnent l'information au lieu de dire qu'ils respectent le secteur bancaire et qu'ils ne peuvent pas partager l'information. C'est une manière d'encourager l'évasion fiscale et ça, c'est aussi grâce aux événements et il faut féliciter les événements. On aussi travaille sur le domaine emploi et avec l'AIT, on fait des rapports réguliers aux gens pour savoir quelles sont les politiques mises en place pour réduire le chômage et pour encourager l'emploi. Et la lutte contre le protectionnisme, on travaille avec Pascal Ami, un en français, et l'OMC, et on fait des rapports réguliers aux gens. Et pour dire, est-ce que le protectionnisme avance ou non dans le commerce? Est-ce que le protectionnisme avance ou non dans les investissements? Est-ce que le protectionnisme avance ou non dans le capitalisme? Ça veut dire que, naturellement, la capitalisation des banques, la stabilisation du système financier et l'augmentation du capital des banques, la régulation des banques, la gestion des corporations financières et privées à terre non bancaire et la question de la gestion des risques dans le domaine secteur privé. On parle et on travaille aussi sur ce domaine. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ceux qui contrôlent et qui dominent les médias aujourd'hui, ce n'est pas seulement la gestion des risques, mais c'est quelque chose qui est duré avant. Était apprécié avant, aurait dû être apprécié avant, mais qu'on en est comme une des deux ans d'ici entre toutes ces autres de la gouvernance. Alors, comment le faire? Il y a naturellement vente et est-ce que les jeux vendent suffisamment? Bon, en fait, ce qui s'est fait, c'est qu'on n'a jamais trouvé le 21 pays. Moi, je suis fondateur des jeux vendus. Au ministre des Finances et au ministre du gouvernement de la Banque centrale, quand on a créé ce mécanisme sans les mises en politique, c'est bien pour l'organisation, parce qu'on a accepté des prix qui nous aident toujours, mais que les collaborations qu'ils allaient avoir demandé, etc. Mais le ministre de la Finance était le premier à accepter ça. Mais on a essayé de élever le niveau au niveau leader pendant tous ces 10 ans sans succès. Il a fallu la plus sévère de notre histoire pour convaincre les leaders qu'il fallait se mettre dans le même salon, dans la même salle et parler sur ces questions ici. Quelle est juste à ce moment l'expérience, parce qu'on parle ici de gouvernance. Je dirais, le gérant était un succès de stabiliser la question financière, système financier, système bancaire. Ils ont arrêté la chute du système financier, ils ont stabilisé beaucoup de fois en haut de tout, et ils n'avaient vraiment pas d'alternative. Deuxièmement, on a déjà la réponse, c'est-à-dire qu'on a une croissance économique positive au lieu de la voie négative qu'on avait il y a 6 mois ou il y a un an. Troisième, chercher cet équilibre, mais je dirais aussi, ça va bouger, que la émergence, la urgence à le structurel. Ça veut dire qu'il faudra, dans les prochaines réunions, en plus la réunion française, la réunion mexicaine de 2012 et dans les autres, adresser les questions de l'éducation, de la concurrence, de la santé, de l'innovation, de la croissance verte, etc. Parce que c'est ça qui va maintenir la croissance dans la moyenne et long terme. Et une fois qu'on a sorti de l'émergence, on a sorti de l'urgence, on a stabilisé la situation et qu'on est dans le cadre de la question, une petite question pour la question de monter et de devenir des coopérations sur ça, il faudra rappeler toujours nos amis, les trois signes, la coopération, la coordination et surtout, je dirais que il faudrait surtout avoir une cohérence dans le politique. Ça veut dire qu'il ne faut pas accepter qu'il y a quelqu'un qui fait tout ce qui intéresse, qui est dans son propre intérêt, mais qui affecte les autres et qui empêche à la fin que le système fonctionne. Soit dans le domaine de vie, soit dans le domaine d'investissement, soit dans le domaine de commerce. Mais finalement, je dirais aussi au nom de l'OCDE que cette année va devenir 50 ans. Hein, on célèbre les 50 ans de l'OCDE, vous savez, le plan national pour la coopération entre les États-Unis, le Canada, etc. On compte par la part atlantique pour la reconstruction européenne et aujourd'hui elle est devenue une institution globale qui participe de tous les pays, les Japon, les Nouvelle-Zélande, le Mexique, les États-Unis, les pays européens, etc. Et nous sommes là pour aider dans tous ces aspects. On travaille déjà dans tous ces aspects, le jour. Avec le secrétariat anglais aujourd'hui, avec le secrétariat français lui-même, et le mexicain après ça. Et je dirais qu'on voit un horizon, comme j'ai dit pour commencer, un horizon de croissance médiocre, chômage haut, et déficit budgétaire haut et dette accumulée très rapidement si on ne veut rien. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas se retirer, il ne faut pas accepter cette business as usual et il faut mettre dans la table les décisions, la coopération, la cohérence, la collaboration et les politiques économiques nationales et aussi internationales pour empêcher que ce scénario médiocre se matérialise. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur.
Merci, M. Goria, pour ce descriptif très complet de l'historique du GEVA et des activités de mission aussi que vous assumez au GEVA. Merci au passage pour ce message au propos de notre conférence avec des associations internationales, de FMI, de l'OMC, etc. Et puis, le par exemple, également, au propos des FMI, du gouvernement de Goria, et de l'OMC, et du gouvernement de l'OMC, et du gouvernement de l'OMC, et du gouvernement de l'OMC. C'est pas ça? Plus sérieusement, pour le dire, je vais vous donner le propos du GEVA et de ses missions, c'est qu'il faut citer le référent sur les enfants espagnols, sur la violence militaire, les tabouillards, sur les investissements, à savoir, financièrement, sur les carrières, les équilibres, les croissances, et les manifestations également, à penser au populaire, des questions de l'éducation, de concurrence, de santé, de la vie, de l'organisation du pays. Et on dit quand même, une préoccupation, c'est pas plus qu'on leur pensait de temps en temps, je sais que c'est lui, c'est-à-dire qu'il est sorti un petit peu du cadre traditionnalité qui est le sien,
On écrit le communiqué, on donnait les conférences de presse, et après ça, on a invité les cinq, ça veut dire la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil, pour les visiter et pour voir s'ils étaient d'accord. On a fait des documents pour vous assigner, pour montrer qu'on est tous d'accord. On dit, mon cher, moi, je n'ai pas rien fait pour rédiger mes documents. Mais même aussi pour voir l'agenda, j'ai rien fait pour participer. Qu'est-ce que sont les priorités que vous avez adressées? Pourquoi? Pourquoi c'est ce plus important que mon problème de pauvreté, ou la question d'éducation, ou la question de pourquoi? C'est vous qui avez tout décidé. Alors, ils étaient invités pour le café. Et les jours après, ils ont été invités à payer ce thème. Parce que nous, quand on parle de développement, il faut s'occuper surtout sur l'Afrique. Alors, c'était politiquement correct. Mais ce n'était pas efficace. Il fallait arrêter de tout faire déjà parce que ce n'était pas l'honneur. Alors, avant, ce n'est pas hier, ce n'est pas passé. Mais c'est une bonne combinaison entre légitimité, 80% de l'économie mondiale, 85% de la population, vie du commerce, etc. Et l'autre pays, 30-22, 23, parce qu'il y a toujours des. Les pays qui ne sont pas vivants, il a le G19, mais les autres qui s'ajoutent, et qui peut discuter plus de l'État, même ajoutant le CIE, le Fonds monétaire, le Banque mondiale, qui les appuie et les ont des éléments. Mais ce n'était pas possible de continuer avec les G8 en invitant les saints pour le café. Il fallait absolument les intégrer. Alors, M. Sarkozy a proposé le G13, le G14, parce qu'il fallait rigoler à télé l'Égypte, je crois aussi. Bon. Il y avait déjà le G20, c'était déjà là. Il ne fallait pas l'inventer, le réinventer. C'était facile de dire, comme le G20 est là, qu'on a une crise un peu probable aujourd'hui, pourquoi pas prendre ce qu'il y a déjà là, hein? Et on a pris le G20 et on a élevé le niveau. Leader pour faire face
et aujourd'hui, je compte pousser à me faire payer par le quel est l'agenda de qui nous fait jouer sur la sécurité et la question de
Merci pour ces précisions complémentaires. Pour tout rappeler, juste rappeler que dans ce pays africain, siège des vastes populations. C'est bien sûr. C'est pour ça que vous avez un peu de monde pour notre
pays. J'invite toujours le président de l'Union africaine pour rappeler que si ça veut dire toujours deux ou trois pays africains, il essaie de faire tout dans la zone.
C'est bien pour les pays.
Ils
sont toujours. Toujours. Nous allons rappeler.